cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre pour l'actualité internationale et nationale. Alors je vais vous parler de la France parce que la France fait partie du monde et que en ce moment en particulier, le monde entier a les yeux fixés sur la France, sur son gouvernement, sur sa foule, comme dit l'autre, sur son peuple. Et donc c'est le moment de s'y arrêter. On sort donc juste d'une très grosse manifestation à Marseille. Peut-être pas la plus grosse de la, je sais pas combien, je crois que c'est la 10e, j'ai pas compté, mais une parmi les plus grosses, très suivie par une température printanière en plus, avec beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la composition de cette population en marche, qui n'est pas celle qui appartient au fameux parti qui portait à un moment le même nom, parce que la population qui marche, ce ne sont pas les marcheurs stipendiés par l'Élysée. Ce sont des marcheurs qui sont à leur propre compte et au compte collectif. Bon, les choses soient bien claires. Bon, alors la composante nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette manifestation. Beaucoup de jeunes parce qu'on sait, et ça se confirme donc dans la rue, c'est-à-dire qu'une partie des universitaires, des étudiants, des chercheurs, des enseignants d'université sont en mouvement. Il y a des amphithéâtres occupés, des collèges occupés, etc. Donc là, il y a un vrai démarrage de la mobilisation des jeunes. Ce n'est pas comme on pourrait le penser ou comme on va nous le raconter, je ne sais pas encore, ce soir ou demain, ce n'est pas un relais de la jeunesse par rapport à la manifestation, c'est un ajout, c'est-à-dire qu'on a une couche supplémentaire qui n'était pas encore très mobilisée ou qui s'intéressait à ce qui se passait mais qui n'était pas concrètement mobilisée, qui maintenant est en train de le devenir. Ils sont mobilisés, ils sont dans la rue, ils interviennent, ils ont des slogans alors qu'on comprend sur la pauvreté des moyens, sur les choix budgétaires, enfin, je ne rentre pas dans leurs propositions, ils le font dans leurs amphithéâtres, dans le compte rendu de l'Assemblée générale, et ils savent, eux, de toute façon, qu'ils sont étudiants aujourd'hui et que dans quelques années, ils vont arriver sur ce qu'on appelle le marché du travail, et ils savent qu'à ce moment-là, ils seront, à partir du jour où ils rentrent sur le marché du travail, ils adoptent, enfin, on leur impose ce système de retraite, ce système de protection sociale qui est en train d'être bouleversé ou qui tendrait à l'être si on suivait les propositions du gouvernement. Donc, ils sont très, très conscients que même si ce n'est pas tout de suite, la dégradation qui serait dans des textes de ce système de retraite les toucherait directement. Alors, pas tout de suite, mais dans 40 ans, mais de toute façon, ils voient très très bien ce que ça donnera avec, alors je le rappelle et j'insiste là-dessus, donc un départ qui serait à 64 ans, possible, et j'ajoute, parce que ça n'a pas été suffisamment dit, que si vous n'avez pas à 64 ans la totalité des versements nécessaires pour avoir votre retraite complète, vous pouvez prolonger encore de 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut attendre 67 ans. Et si vous atteignez 67 ans, que vous ayez une décote ou pas de décote, la décote, c'est ce qu'on vous enlève si vous n'avez pas cotisé assez longtemps. Bon. À 67 ans, donc dans le nouveau système macronien, macro-bornien, il faudrait atteindre 67 ans pour, quoi qu'il arrive, toucher à 67 ans la retraite telle qu'on y a droit dans sa totalité. Cette totalité pouvant en plus être grignotée au fil des ans. Bon. Donc c'est ça la perspective. Donc aujourd'hui, vous êtes étudiant, vous êtes en master 2 ou 1, vous avez 22, 23 ans, et vous savez que peut-être si vous avez des pépins, un poste, un concours raté, un poste qui se ferme, une entreprise qui vous débauche, et ça peut arriver aussi, peut-être bien que vous aurez une petite retraite à 67 ans. C'est ça la perspective, c'est-à-dire c'est démobilisant à un niveau pas possible, c'est écœurant, alors qu'on sait qu'il y a pas de, y a beaucoup de gens après 60 ans qui ne trouvent pas de travail. Ben, tout ça pèse dans le climat et donc en fait l'espèce d'entêtement gouvernemental amène de plus en plus de couches à réfléchir sur la réalité, le pourquoi de cet entêtement et à se mobiliser avec les autres. Ça, c'était le premier élément que je voulais donner parce que ce n'est pas une surprise qu'on ait aujourd'hui des étudiants dans les cortèges de manifestants qui ne se substituent pas aux autres, qui s'ajoutent, que les choses soient tout à fait claires. Ça, c'est la première donnée des visus, j'allais dire. C'est ce que j'ai vu il y a tout à l'heure dans la rue à Marseille, au sein d'un gros cortège avec tous les syndicats représentés. La CGT, bien entendu, numériquement beaucoup, beaucoup plus importante que les autres, mais FO très présent aussi, les syndicats de l'enseignement, SNES, NESUP, etc., la CFDT aussi. Donc tout le monde était encore là, il n'y a pas de défection. Et je me satisfais qu'il n'y ait pas de défection, car je sais, à lire ici des titres ou là, sur les interventions de l'Élysée pour essayer de débaucher, pour faire craquer le Front syndical, je lisais hier un message qui disait « Monsieur Alexis Kohler essaye de faire pression sur Monsieur Berger ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Qui est Monsieur Alexis Kohler ? Monsieur Alexis Kohler est un inspecteur des finances, donc le gratin de la fonction publique passé par l'ENA. C'est un camarade, d'Emmanuel Macron et c'est la tête pensante d'Emmanuel Macron. J'allais dire, d'autres diraient, c'est son âme damnée. Secrétaire général de l'Élysée, celui qui sait tout, qui connaît tous les rendez-vous, qui sait ce que va faire le président, qui sait ce qu'il va dire. Je ne sais pas si c'est lui qui écrit les discours, mais il y a peut-être un plumitif qui est chargé de ça. Monsieur Alexis Kohler est en train, c'est ce qu'annonçait un titre de la presse, d'essayer de contacter monsieur Berger, secrétaire général de la CFDT. Parce que ça les gêne beaucoup, ce front syndical, qui est une nouveauté et qui pèse lourd dans la mobilisation et dans la qualité de l'unité des manifestants. Il n'y a pas de discrimination syndicale, tout le monde est là, ou qu'il soit syndiqué, ou qu'il ne soit pas syndiqué, mais c'est un espèce de garant d'une unité d'action et d'une compréhension large de beaucoup de couches de la population. Et ça, c'est effectivement le véritable obstacle politique, parce qu'il n'y a pas ailleurs d'obstacle politique. Au sens d'obstacles de partis politiques. On l'a vu au moment du vote sur la motion de censure, puisque en fait, le groupe Les Républicains s'est scindé en deux morceaux. En gros, un tiers pour la motion de censure et deux tiers contre la motion de censure. Et donc, c'est ce parti, en fait, dont ce fractionnement a décidé du résultat du vote de la motion de censure. C'est ce parti, je le rappelle, qui a eu aux élections présidentielles de 2022 3% des voix. C'est-à-dire qu'en fait, la motion de censure s'est jouée sur l'éclatement des voix d'un parti, des votes de députés d'un parti, qui ne représente presque plus rien dans l'opinion publique. On a là une déformation donc, de l'expression populaire, de la représentation, comme on dit, puisque un parti qui représente, à travers la candidature de Mme Pécresse, vous vous souvenez, qui a représenté donc 3% des voix de l'électorat en 2002 au premier tour, a été décisif dans le résultat du vote sur la motion de censure. Et puisque j'en suis là, je voulais insister sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos institutions. Alors j'ai déjà eu l'occasion de parler, d'expliquer ce que c'était que la procédure qui avait été utilisée pour faire débattre le Parlement, si tant est qu'il est débattu. Donc une procédure exceptionnelle, détournée totalement de son objet. C'est le fameux article 47.1 sur lequel je vais revenir. Et en fait, une procédure qui a été considérée par certains juristes comme le mauvais véhicule. Alors c'est très très joli le langage des juristes. C'est le mauvais véhicule. Ça veut dire au fond, alors ça veut dire très clairement, parce que je ne vais pas parler comme les juristes, des spécialistes du droit constitutionnel, je ne vais pas dire que c'est un mauvais véhicule. Je veux dire que c'est une entourloupette, c'est une malhonnêteté, c'est un traficage des textes. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre, hein, le mauvais véhicule. Ah, que c'est joli, on est entre gens bien élevés. Monsieur, vous avez choisi un mauvais véhicule. Oui, oui, en fait, j'essaye de vous rouler dans la farine, appelez ça comme vous voulez. Je suis content de ce que je fais et je reste content de ce que je fais. Ça, je me mets, excusez-moi, je parle comme Emmanuel Macron, mais je ne sais pas le faire, en fait, il le fait mieux que moi, bien entendu, parce que j'arrive pas à mentir tout le temps, j'arrive pas à être malhonnête et à prendre mon interlocuteur pour un imbécile. Mais lui a du métier, et manifestement, il s'améliore dans ce rôle de menteur permanent. Bon. Donc, mauvais véhicule, très bien. Et donc on en arrive à cette séquence parlementaire très particulière qui se termine non pas par un vote sur un projet de loi, le projet de loi sur la retraite dont on a parlé amplement, mais un vote sur une motion de censure, ce qui n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est on a confiance dans le gouvernement ou on n'a pas confiance dans le gouvernement. Et c'est là qu'effectivement les deux tiers des députés des Républicains disent qu'au fond ils ont quand même confiance. Alors on a eu, ça a donné lieu à des prises de position presque ridicule, puisqu'on a un ou plusieurs députés des Républicains qui ont dit « Je suis contre la loi des retraites, mais je vote quand même la censure. Je vote pas la censure. » Alors, mais dites-le, monsieur, on dit dans la vie de tous les jours « Tu habites où, toi ? Ça veut dire quoi, ça ? Tu es contre la loi, mais tu ne votes pas la censure ? Tu sais pas où tu habites. Hein » Enfin, je dis ça dans le langage de tout le monde. Bon, et il y en avait quelques-uns comme ça. Effectivement, s'il y en avait... Il en aurait suffi d'une dizaine qui se disent ben, « je suis contre la loi, donc je vote la censure ». Bon, ils ont pas compris, ils n'ont pas réussi, puis peut-être ils sont au chaud à l'Assemblée nationale, à 6 000 euros par mois, etc. Ils sont tout contents, ils ont un petit bout de retraite pour ça. Bon, et puis peut-être ils se disent que si jamais il y a une nouvelle élection, ben, vu l'état dans lequel est leur parti, ils risquent de ne pas retrouver leur siège, et donc ils ont peut-être des angoisses sur leur carrière future. Je signale à ce propos que la législation française présente une très très grave lacune, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas prévu, ou il est prévu assez rarement, je pense en particulier dans les conventions collectives des différents secteurs d'activité, qu'un monsieur qui a été élu, qu'il ait été élu maire, conseiller départemental, conseiller régional, qui perd son siège ou qui abandonne son mandat parce qu'il ne veut pas se représenter, doit retrouver automatiquement un emploi. Parce qu'effectivement, si vous avez dessus l'épée de Damoclès du chômage, j'étais député à 6 000 euros par mois avec tout ce qu'il faut, etc. Et je ne sais pas ce que je vais devenir après, ou je vais être obligé de me vendre à une banque parce qu'eux me reprendront pour faire du mal à la population. Vous n'êtes pas très, très courageux dans vos positions. Alors que si vous disiez, ben, j'ai fait ça pendant un certain temps, j'ai donné 5 ans ou 10 ans de ma vie pour le bien collectif, et puis je retrouve un travail et ma vie continue, j'ai fait ma part de travail collectif. Là, c'est pas du tout ça, on est dans des gestions de carrière, c'est tout autre chose. C'est ça l'état de notre démocratie, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Et vous avez des gens qui arrivent à des postes très importants, je vais citer M. Castaner, par exemple, parce qu'on le connaît bien ici, qui n'ont pas de profil professionnel, hein, mais qui arrive par l'intrigue politique et après avoir fréquenté des milieux interlopes. Bon, c'est ça aussi le recrutement politique. Et puis quand on est arrivé comme ça à des postes de pouvoir, à des postes très très bien rémunérés, puisque je parle de M. Castaner, qu'il a été nommé il y a quelques semaines président de la société du tunnel sous le Mont-Blanc, il est PDG d'une entreprise, une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Il a donc des émoluments au titre de PDG de cette entreprise. Bon, quel profil professionnel il a ? C'est rien, c'est l'ami du patron, c'est tout, voilà. Tenons-nous-en à ça. Bon. Alors, je vais aller un petit peu plus loin donc, dans ce qui se passe dans ce trafic des textes sur ce vote qui n'en est pas un, puisque la motion de censure, ça veut dire que concrètement, le Parlement, je rappelle que dans notre République, il y a un pouvoir exécutif, c'est-à-dire un président et un gouvernement et des ministres, ça c'est le pouvoir exécutif, et puis il y a un Parlement qui vote les lois, qui a le pouvoir législatif. C'est très très clair, c'est bien séparé, c'est dans le préambule, ça fait des dizaines, c'est pas dans cette seule constitution. Bon, à partir du moment où la loi sur la retraite n'a pas été votée par le Parlement, c'est un chiffon de papier, c'est rien d'autre qu'un chiffon de papier. Et on peut se demander ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, c'est dans les jours qui viennent que ça devrait se passer, c'est qu'il y a un dernier mécanisme qui permet de sauver la Constitution et qui permet, je vais être beaucoup plus carré dans mon propos, de sauver la République dans l'état où elle est. Ce mécanisme, il existe, on le connaît, c'est le mécanisme du Conseil constitutionnel. Il s'agit donc d'un groupe de 9 personnes qui a été saisi de demandes, donc, d'annuler cette loi et qui devrait délibérer. Alors là, je m'arrête là-dessus. Bon, c'est bien. Ce mécanisme va-t-il fonctionner ? On ne sait pas. On ne sait pas. Dans ces 9 sages, comme on les appelle, je mets d'énormes guillemets, bon, présidés par M. Fabius, avec le soutien vigilant de M. Alain Juppé et de quelques autres. Alors, il y a quelques juristes, mais il y a quand même des politiques qui ont quand même un passé pas très progressiste. Alors pourquoi ils ont un passé pas très progressiste ? Eh bien, c'est très très simple, puisqu'en fait, comment sont choisis les 9 juges du Conseil constitutionnel ? Et ça fait 3 fois 3. Il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République, il y en a 3 qui sont nommés par le président du Sénat, et il y en a 3 qui sont représentés par le président de l'Assemblée nationale. Dans l'état actuel de la présidence, du Sénat, dans tous les cas, ça fait trois personnes de droite choisies par le président du Sénat qu'il est toujours. Ça fait aussi des trois choix du président de l'Assemblée dernière, c'est-à-dire une assemblée à majorité macronienne, plus les trois du président de la République. La place pour, un progressiste un peu contestataire, c'est un trou d'aiguille, il n'y a presque pas de place, c'est pas possible. Bon, ils sont là. Alors ils sont là, la question qui leur est posée aujourd'hui, et on les attend, dire est-ce que vous serez capable, car, rendez-vous bien compte, il ne reste plus que vous pour arrêter le gâchis et le désordre. C'est-à-dire, ou bien vous dites effectivement le véhicule était mauvais, la procédure n'a pas été correcte, on ne devait pas utiliser le cheminement qui a été utilisé, on devait donner des délais au Parlement, etc. Ou bien vous dites ça et vous dites cette loi, on l'annule. Point à la ligne, c'est tout. Et on recommencera un débat, alors avec les préparatifs qu'il faut, le respect des partenaires sociaux, le respect des forces politiques et tout. Et on verra bien. Hein. Mais vous ne pouvez pas bricoler, parce que ce que je crains, c'est un bricolage en disant « Ah, ben cet article-là, il est contestable, mais le reste, on le prend, etc. Hein, » faire un truc à façon qui ne fasse pas trop de peine au président et qui vous sorte de cette situation délicate. Alors, je le dis parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention un certain nombre de spécialistes de droit constitutionnel qui sont passés sur les antennes à propos de cette opération. Et il y en a même qui vont à dire on serait content de cette décision du Conseil constitutionnel qui serait une des rares qui n'aurait pas été décevante. Voilà, on en est là. On en est là. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui se passera. Ce qui est notable, alors je vous fais part de mes réflexions parce qu'il y a un site internet du Conseil constitutionnel où on voit leur agenda, leur réunion, de quoi ils traitent. Alors il y a des activités de routine, par exemple, proclamer le résultat d'une élection législative partielle, comme ils ont proclamé l'élection du Parlement, du président de la République il y a 2 ans, il y a la dernière. Bon, pas de souci. Il y a des recours pour la constitutionnalité des textes. Bon. Qui sont assez courants. Donc, ils ont un travail régulier. Et puis, il y a les gros morceaux, comme un recours donc, de l'Assemblée de parlementaires, d'un groupe de parlementaires qui disent qu'ils sont contre une telle loi pour toute une série de raisons. Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Eh bien, je ne sais pas. Alors, ça va beaucoup s'agiter dans les coulisses, car je suis allé par tous les biais possibles sur le site du Conseil constitutionnel. Il y a tout dans leur agenda, sauf ça. C'est-à-dire le seul dossier qui fâche, le seul dossier qui est important, il n'est pas mentionné. Ce qui veut dire que si, au moment où je vous parle, ils sont en train de délibérer sur la question de la loi retraite, personne ne le sait. Si, bien entendu, à l'Élysée, on le sait, à Matignon, on le sait, certains journaux le savent, personne ne le dit. Alors pourquoi personne ne le dit ? Parce que si on savait, après tout, on pourrait très bien aller en disant « Ah, c'est aujourd'hui qui délibère là-dessus » et d'organiser un rassemblement massif en disant « Faites votre travail, faites respecter la Constitution, vous êtes là pour ça, on vous a à l'œil ». C'est ça, ça ne serait pas du tout aller mettre le feu au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, s'il y a 50 000 personnes autour du Conseil constitutionnel, ça ne leur est jamais arrivé, ça les ferait peut-être réfléchir autrement. Là, c'est clandestin, le Conseil constitutionnel. Entendez-vous bien, le garant de la Constitution de la République française se réunit de façon clandestine. Et si je dis qu'il est peut-être en train d'être réuni en ce moment, c'est que dans la procédure classique qui est prévue, le Conseil constitutionnel peut statuer en urgence, si le gouvernement le lui a demandé, en urgence, c'est dans la semaine où il est saisi, c'est-à-dire il a été saisi vendredi dernier. Et donc s'il délibère d'ici 48 heures, il est en urgence. Ça n'est affiché nulle part. S'il n'est pas dans l'urgence, il a un mois. Mais si entre une semaine et un mois, ça change tout de la situation politique nationale, vous le comprenez. Et donc si on était sûr qu'ils délibéraient cette semaine en urgence et s'ils affichaient la date, il y aurait une possibilité de réponse politique populaire, courir dans la rue pour dire « attention ». Là, on ne peut même pas les mettre en garde. Ce qui veut dire qu'ils vont se permettre peut-être de faire une énorme gaffe. Faire une énorme gaffe, je dis pourquoi ? Parce que je rappelle et j'insiste sur le fait que c'est le dernier mécanisme qui sauve la Constitution telle qu'elle est. Si le Conseil constitutionnel ne dit rien, à ce moment-là, la Constitution, elle est morte sur pied, elle n'est plus respectée par le président, elle n'est plus respectée par le gouvernement. On rentre dans une période extrêmement dangereuse où il y a un texte, mais qui ne vaut plus rien, qui est une passoire dont on fait ce qu'on veut en fonction des nécessités du moment. Et donc, on est dans un vide juridique. On a des rapports entre le peuple, ses représentants et le pouvoir ne sont pas clarifiés. C'est ça une constitution. Et c'est ça le rôle du Conseil constitutionnel, de la sauver in extremis, au dernier moment. Tout a été détruit. Le vote parlementaire, ça a servi à rien. Le vote du Sénat, ça a servi à rien. Vote bloqué. On a utilisé, j'insiste là-dessus, le phénomène donc du projet de loi rectificatif sur le financement de la sécurité sociale, qui est parfaitement inadapté. C'est ça le mot véhicule, parfaitement inadapté. On ne bouleverse pas le financement de la sécurité sociale et donc de l'assurance vieillesse en particulier, comme un petit arrangement qu'on a fait au dernier moment parce qu'on avait mal rédigé un morceau de texte. Je rappelle que la loi de financement de sécurité sociale a été votée dans les derniers jours de décembre 2022 par un Parlement, qu'elle a été approuvée par le Conseil constitutionnel et qu'elle est en vigueur depuis le 1er janvier. Donc rectifier la loi, ça veut dire d'une part qu'on a mal travaillé avant ou qu'on avait prévu de faire une entourloupette, c'était exactement ça, c'est-à-dire de faire passer le morceau qui fâchait dans cette espèce de procédure accélérée qui est la procédure du 47-1. Ça, c'est tricher, Madame Borne, Monsieur Macron, c'est tricher, parce que c'est pas fait pour ça le 47-1 et le 49-3 non plus. D'où c'est venu ? D'où c'est venu ? Alors, c'est venu d'une période, il faut faire un peu d'histoire de la République française et du parlementarisme. On sort de la 4e République, vous savez que la 4e République, donc, qui s'est installée en 1947 avec la nouvelle Constitution, l'élection d'un président de la République élu par les chambres, qui ne représente pas grand-chose, donc un régime parlementaire fonctionne de 47 à 58, donc 11 ans. Au bout de ces 11 ans, il y a une crise politique qui est liée à la guerre d'Algérie, qui prend, donc on est courant 58, qui prend des proportions inquiétantes et qui menace même la République dans sa constitution. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un coup d'État, tout simplement, qui est organisé par les gaullistes et De Gaulle lui-même, et donc la constitution est modifiée, on est au mois d'octobre 1958. Le coup d'État a lieu au printemps mai 58, et la constitution qui sort de ce coup d'État, qui est préparée pendant l'été, pendant lesquels le gouvernement provisoire de De Gaulle a mis en congé le Parlement, Donc la Constitution est rédigée dans des bureaux par les gaullistes. Et elle est présentée au peuple qui va trancher. Et le peuple, ben, il va accepter cette Constitution. Et les arguments qui sont utilisés, en particulier le 49-3 et le 47-1, sont les suivants. Sous la 4e République, donc de 47 à 58, l'équilibre parlementaire, puisque c'est le Parlement qui élit le gouvernement, est instable. C'est-à-dire il y a un gros groupe communiste, un groupe socialiste un peu plus petit, des petits groupes dans le centre au milieu qui tombent à droite ou à gauche. Je veux parler en particulier du parti du président François Mitterrand, qui n'est pas président de la République à l'heure actuelle, à cette époque-là, mais qui est président d'un petit groupe qui fait souvent la bascule entre un gouvernement et le suivant, selon où il amène ses 10 ou 15 députés du bon côté, d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est la formation politique de François Mitterrand. Elle est là, elle est nulle part ailleurs. Elle est dans ce jeu d'équilibre qui fait que je suis un faiseur de gouvernement. Je tombe d'un côté, ce gouvernement passe. Je tombe de l'autre, ce gouvernement ne passe pas. Ce qui permet à ce sieur François Mitterrand, parce qu'il faut lui rendre ce à quoi il a droit, c'est pas que mai 80 François Mitterrand, c'est d'abord ça, ça lui permet d'être ministre de la Justice au moment de la guerre d'Algérie, ça lui permet d'envoyer à la guillotine un certain nombre de militants anticolonialistes, c'est ça aussi François Mitterrand. Donc après, on l'a enjolivé, enjolivé, 80, etc. Et sa formation, son apprentissage politique, il est là, dans ce jeu d'équilibre, je fais tomber les gouvernements selon l'endroit où je vais, et en échange, on me met ministre, bien entendu, puisque c'est moi qui ai fait la majorité parlementaire, moi et mes copains. Ils sont quelques-uns. Bon, c'est bon à rappeler. C'est bon à rappeler. Et donc, qu'est-ce qui arrive ? Donc, cette constitution qui est fabriquée par les gaullistes en chambre est approuvée par le peuple. Il y a un référendum dont le résultat n'est pas contestable parce que l'argument qui est mis en avant, c'est de dire c'est ingérable, ces crises gouvernementales. Tous les 6 mois, il y a un nouveau gouvernement, il suffit qu'il y ait un parti qui bascule à droite, à gauche, etc. Et il faut tout recommencer. C'est tellement ingérable qu'il est arrivé plusieurs fois qu'on arrivait au 31 décembre de l'année et que le Parlement n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le budget qui commençait le lendemain matin. Et donc là, on a pris cette mesure de dire, ben effectivement, à ce moment-là, il faut obliger le Parlement à délibérer très rapidement. C'est ça l'article 47, il vient de là, il ne vient pas d'autre chose. Il a été fait pour ça. Ce qui est à la limite, c'est passé dans l'opinion, puisque c'était compréhensible, que ça faisait 11 ans qu'il y avait ces incertitudes sur la gestion de l'État. Et effectivement, c'était un peu embêtant pour un gouvernement de dire « Ah ben oui, mais je ne sais pas la semaine prochaine si je pourrais payer mes fonctionnaires, je ne sais pas si je pourrais payer les travaux que j'ai à faire ». Bon, donc on sortait de cette espèce d'instabilité d'un régime parlementaire. Et ça a été vendu à la population comme « on va retrouver de la stabilité ». Mais la stabilité, ça voulait dire « il y a un moment où c'est le gouvernement qui décide et le Parlement s'assoit dessus ». C'est très clair. Bon. Alors, ça a été utilisé un certain nombre de fois dans ce type de circonstances. Ça n'a pas donné lieu à des grandes colères populaires. On s'est dit, oui, ben, il faut quand même qu'il y ait un budget, il faut qu'il soit voté, puis il y en a assez. C'est cette cuisine entre les partis qui veulent remplacer le gouvernement tout le temps, etc. Bon. Mais quand on en fait l'usage qu'a fait l'équipe Macron-Borne, on se moque de la population. C'est-à-dire, on se fiche absolument de ces nécessités-là. On abuse de tous ces articles qui ont été faits pour un autre. C'est-à-dire, je résume parce que c'est le résumé facile et vous me pardonnerez, c'est-à-dire que les habits du général de Gaulle sont un peu trop grands pour Emmanuel Macron qui flotte dedans et qui passe pour ce qu'il est, un petit copieur, un petit imitateur de bas étage. C'est tout à fait clair. Alors ce Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas quand il va le faire, mais je pense probablement qu'il est sous la procédure d'urgence, c'est-à-dire que d'ici la fin de la semaine, il accouchera de quelque chose. Alors il doit accoucher de deux choses. Il doit accoucher d'une part d'une demande concernant la régularité de l'adoption, qui n'est pas une adoption de la loi sur la sécurité, sur la retraite, et puis il doit aussi faire face à une demande, répondre à une demande qui est la demande sur le référendum d'initiative partagée. Alors, je m'arrêtais un peu plus sur ce second sujet. Le référendum d'initiative partagée, ce n'est pas une invention gaulliste. C'est une invention d'un certain Nicolas Sarkozy. Donc c'est une invention qui remonte à une réforme de la Constitution qui a eu lieu en 2008, l'année d'après l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça veut dire, référendum d'initiative partagée ? Ben, ça veut dire qu'en fait, on reconnaît référendum que le pouvoir in fine, appartient au peuple, c'est la décision majoritaire du peuple à qui on pose une question qui s'imposera, mais il est partagé. Il est partagé comment ? Ben, il est partagé entre le Parlement et le peuple. C'est-à-dire que on donne au peuple l'espoir qu'il va pouvoir peser, mais en fait, il est sous tutelle aux deux extrémités de la procédure, et je m'explique. La première extrémité de la procédure, c'est que pour le référendum d'initiative partagée soit praticable, il faut qu'il y ait 185 députés qui l'aient demandé. Ça veut dire que si vous avez un Parlement qui majoritairement ne veut surtout pas entendre parler de référendum, il n'y aura même pas ça. Bon. Là, cette étape est passée. Les 185 signatures ont été déposées et donc la demande de faire un référendum d'initiative partagée est faite. Et donc le Conseil constitutionnel doit statuer sur la régularité de la demande. Effectivement, il aura de la difficulté pour dire qu'elle n'est pas régulière puisqu'il y a le nombre, les délais sont bons. Il peut s'agir aussi d'une loi qui n'est pas encore promulguée. Alors je ne me suis pas arrêté un instant sur cette notion. Qu'est-ce que c'est que la promulgation d'une loi ? C'est le pouvoir du président de la République de faire passer un texte voté par le Parlement dans le journal officiel. Je parle la langue de tout le monde, c'est-à-dire promulguer, c'est signer en disant « Moi, président de la République, je dis que ce texte, il est bon, je le valide, c'est rien de plus. Hein. » Promulguer, c'est donc passer au journal officiel. Si vous passez au journal officiel un texte qui n'a pas été voté par le Parlement, vous êtes en train de faire un coup d'État. Vous êtes en train d'annihiler le pouvoir législatif. Rien que ça. Bon. Je ne sais pas s'il envisage de le faire. Il ne l'a pas fait à l'heure où je vous parle. Donc, pour l'instant, la loi n'est pas promulguée. Et donc, ça veut dire que le référendum d'initiative partagée peut avoir lieu, puisque la loi n'est pas promulguée. Alors, si elle était promulguée, on aurait affaire à un acte extrêmement grave, puisqu'on aurait affaire à la signature, enfin la validation par le président d'un texte non voté, c'est-à-dire qu'on aurait un chiffon de papier dans le journal officiel et dans les éléments clés de la République. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. La crise institutionnelle est extrêmement profonde. C'est là-dessus que je veux insister. Deuxième contrôle parlementaire à l'autre extrémité. Alors, entre les deux extrémités, donc l'accord du Conseil constitutionnel sur le recours à ce référendum d'initiative partagée et le référendum lui-même, il y a encore deux étapes. Et je vais expliquer ce que c'est que le partage dans ces deux étapes. La première étape, c'est effectivement recueillir la signature de 10% du corps électoral pour que ce référendum ait lieu. 10% du corps électoral, c'est 4,8 millions de citoyens français inscrits sur les listes électorales. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un chiffre élevé. C'est un chiffre plus élevé que dans tous les autres pays où il y a des référendums populaires de ce type-là. Mais il est tel que. Alors, est-ce qu'il n'est pas atteignable ? On peut se dire que dans le cas concret, vu l'opposition extrêmement profonde de la population à la loi retraite et à tout ce qu'elle contient, ce n'est pas impossible que le nombre soit atteint, surtout que le délai pour atteindre ces 4,8 millions de signatures est de 9 mois. Donc on aurait pratiquement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux fêtes de fin d'année, pour recueillir ces signatures. La procédure est claire, des bureaux sont ouverts dans les municipalités, ça peut se faire par Internet, etc. Enfin, ça, c'est rodé. Il y a eu un seul précédent de RIP, comme on dit, j'abrège ce référendum d'initiative partagée, qui est un référendum qui a été organisé sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Je crois que c'était en 2020, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, la privatisation de l'aéroport de Paris, qui d'ailleurs a été abandonnée parce qu'il n'y avait pas de puissance privée d'argent que ça intéressait, parce qu'on était en train de rentrer dans la crise du Covid, et donc gérer un aéroport pendant la crise du Covid, ce n'était pas l'annonce d'un bénéfice très très important pour la boîte qui aurait repris ça. Donc il n'y a pas eu les signatures. Il y a eu, je crois, 1 million de signatures, ce qui était pas mal, sur un sujet qui n'a pas passionné les foules, parce que j'ai entendu moi des réactions de gens qui disent « mais moi je prends jamais l'avion, moi l'aéroport de Paris c'est pas le cœur de mes préoccupations, ça bouleverse pas la République française », c'était un sujet secondaire. Et donc on est quand même arrivé sur ce sujet secondaire, enfin d'importance évidemment moindre que la loi sur la retraite, on est arrivé quand même à 1 million de signatures. Mon hypothèse, qui paraît fiable, c'est-à-dire que quand on arrive à des mobilisations qui mettent dans la rue entre 2 millions et 3 millions de citoyens, il n'y a pas besoin de faire d'énormes efforts, vu le soutien populaire, tous les sondages le prouvent, contre la loi retraite. Ce n'est pas inimaginable que les 4,8 millions de signatures soient atteintes. Bon. Imaginons que ce soit le cas. Eh bien, ce n'est pas fini, parce que la course d'obstacles continue. Elle continue parce que je disais bien dès le début que le partage entre le référendum, enfin entre le peuple et le Parlement, continue pour une dernière étape. La dernière étape, c'est que une fois que les... Alors, supposons, on a 5 millions de signatures qui ont été obtenues. Donc, les signatures sont là. Donc, il faut organiser le référendum. Non. Non, non, il y a une condition préalable. On revient devant le Parlement pour refaire débattre du sujet. Et le Parlement a 6 mois pour rediscuter du sujet. C'est-à-dire que le Parlement, in fine, peut s'asseoir lui aussi sur les 5 millions de signatures. C'est ça le partage. C'est-à-dire que le Parlement n'a presque rien lâché. Il a dit « Allez, votez, ça vous fera du bien, vous détendrez, vous aurez l'impression d'être quelque chose, mais au fond, vous n'êtes rien. C'est nous qui disons la vérité in fine, c'est la représentation parlementaire. Alors avec ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'espoir qui disent on laisse se faire le référendum. Si au bout de 6 mois, ils n'ont pas délibéré, c'est-à-dire ils disent non, maintenant nous, ça voudrait dire nous on veut qu'il y ait un référendum, que ce soit le peuple qui tranche. C'est trop grave, ça met trop d'intérêt en jeu, ça met l'avenir de toute la population française à différents degrés et pour différentes raisons en cause. Il faut que ce soit le peuple qui tranche. Mais il faut attendre 6 mois pour qu'ils se décident à faire ça et qu'ils décident pendant 6 mois de ne pas y toucher. Est-ce qu'on peut rêver de cette situation ? Ce n'est pas évident du tout. Si jamais ils disaient « non, finalement, on va laisser le peuple s'exprimer », il y aurait au bout des 3 mois, je crois que c'est 60 jours, c'est ça, pendant lesquels il pourrait délibérer, on pourrait passer au référendum, et là, le gouvernement, le pouvoir, serait tenu de l'organiser. Tout ça nous ramène quelque part vers Pâques 2024. Voyons bien l'étendue du problème. Mais rien n'est acquis. Et puis, si référendum il y a, il ne suffit pas qu'il y ait les 5 millions de personnes qui ont demandé à ce qu'il ait lieu. Il faut que tout le monde vote. Donc, en plus, on peut effectivement avoir un résultat qui n'est pas celui que nous attendons. Bon, mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu. On va au référendum ou on n'y va pas. Mais on prend les risques du référendum. Voilà le cadre dans lequel on se trouve, qui n'est rien d'autre. Alors, qui est un suffrage universel, un suffrage massif et le système référendaire, qui est bridé dès l'origine, dès le début, qui est bridé tout le long du processus et qui peut être bridé à la fin, c'est-à-dire que tous ceux qui auront signé pour la demande d'un référendum peuvent, si jamais le Parlement tout d'un coup se réunit et dit « ben voilà, moi je légifère une nouvelle fois et puis la loi c'est ça, puis on n'en parle plus », la demande de référendum n'a servi à rien. Vous voyez, c'est donc ne rêvons pas sur le référendum d'initiative partagée, même si dans les jours qui viennent, il est autorisé concrètement par le Conseil constitutionnel, ce qui reste un obstacle à passer. On n'est pas du tout sûr du résultat qu'il y a au bout. Bon. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici le Pâques, d'ici le printemps 2024, vous l'imaginez très très bien. Voilà ce que je voulais dire donc sur la situation institutionnelle, et je voulais insister sur le fait que ce qui se passe là, c'est pratiquement la fin, les dernières possibilités que la Constitution de la Ve République, telle qu'elle a été approuvée donc à l'automne 1958, jette ses derniers feux. Elle a été beaucoup utilisée, beaucoup trafiquée, beaucoup manipulée, et là, elle est complètement à bout de bord, elle est fatiguée et utilisée par des gens malhonnêtes. C'est tout à fait clair. Voilà. On verra ce qui se passera. Ça dépendra aussi de la mobilisation populaire. Mais il faut que les enjeux soient clairs. Et il faut bien voir que nous avons affaire à une bataille de chiffonniers menée par des personnes très, très inquiétantes. Je voulais finir. J'ai cité le mot tout à l'heure du secrétaire général de l'Élysée, M. Alexis Kohler, dont une dépêche annonçait hier qu'il essayait de faire pression sur le secrétaire général de la CFDT, considéré peut-être comme le maillon faible de cette coordination syndicale où toutes les confédérations sont là. Qui est M. Alexis Kohler, donc le secrétaire général de l'Élysée? Bon, ça c'est une chose. Mais d'où vient-il et qui est-il? Eh bien, ce monsieur est apparenté de très très près, à une famille italienne, la famille Aponte, famille italienne qui est propriétaire, tenez-vous bien, du deuxième armateur mondial pour le transport des containers sur tous les océans, qui s'appelle MSC, et du deuxième armateur mondial pour les bateaux de croisière. Bon. Donc le grand, grand, grand capital multinational. Monsieur, alors c'est pas simplement un ami de la famille, Monsieur Kohler a été directeur financier de MSC. Directeur financier de MSC. Et tenez-vous bien, il sait tous les secrets que personne ne connaît, car la famille d'Aponte et ses amis ou ses affiliés ou ses proches comme Monsieur Kohler possèdent la totalité du capital de l'entreprise MSC, donc n'est pas coté en bourse, ses comptes ne sont jamais publiés. On ne sait pas quel argent ils ont dans leur poche. Donc ça veut dire qu'on a, alors les observateurs italiens, on en a qui connaissent la carrière et la carrière fabuleuse de la famille Aponte et du fondateur, le monsieur Aponte fondateur, qui était simplement un commandant de bord, un capitaine au long cours, qui a commencé, je crois, qu'à un bateau et qui est aujourd'hui à la tête de la deuxième flotte mondiale. Bon. Il a commencé donc sa carrière dans la région de la baie de Naples, vers Amalfi. Il a beaucoup grandi, mais on n'a jamais su combien d'argent il avait, qui étaient ses actionnaires, c'est la famille. Tout ça est resté secret, mais il est aujourd'hui un homme très puissant dans le monde entier. On a donc à la tête de l'Élysée le meilleur conseiller, le plus proche d'Emmanuel Macron, qui est proche d'une entreprise mafieuse. C'est très très grave pour la République française, c'est très très grave, hein. Et ça ne s'est jamais passé à des niveaux si élevés. C'est ça qu'il faut savoir. Bon. Alors, le capitalisme transnational, il est comme il est, mais il y a des gens comme alors ceux dont on parle et sur lesquels on dit du mal, Total, AXA, etc. Eux, au moins, on voit leur compte. Donc, ils peuvent en dissimuler un peu, ils peuvent un peu tricher ici et là, mais la MSC, c'est le plus grand secret mondial dans le business. Imaginez ça. Siège à Genève, on est tranquille là, sous surveillance, et on ne sait pas où est l'argent. Ça veut dire que M. Emmanuel Macron, s'il a besoin de plusieurs milliards d'euros pour je ne sais quelle opération électorale, il saura les trouver du jour au lendemain, dans le quart d'heure. Écoutez bien ça. Écoutez. C'est ça la réalité de la République française dans l'état où elle est descendue. Je crois que j'en ai dit assez. L'affaire est compliquée, l'affaire est très, très grave. Elle met en cause le fonctionnement de notre République, qui est très, très fatigué. Elle met en cause le mode de gestion et de gouvernement de ce président et des gouvernements successifs qu'il choisit. Elle met en cause très profondément l'équilibre social de la France et elle met en cause la violence d'un rapport de classe qui est manifeste. Bon. Dernière chose sur la violence, puisqu'il faut finir là-dessus et quand même le dire, ce qui se voit sur les écrans des télévisions étrangères ces derniers jours, c'est les manifestations, en particulier la manifestation des bassines, des fameuses bassines, réprimées avec une extrême violence, avec du matériel qu'on ne connaissait pas encore, très très sophistiqué, du matériel quasi létal, comme disent les observateurs stratégiques, ça veut dire quasi mortel. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une déformation dangereuse, en ce sens que pour l'opinion internationale, le gouvernement Borne-Macron, ce n'est que ça, ce n'est que la violence brutale. Donc ça, c'est une fausse image, parce que ça élimine la question de la crise institutionnelle, de la crise politique, sans parler de la crise financière qui est en cours de préparation. Ça l'élimine. On en est une espèce de jeu d'écran le soir. Regardez, ah ben, il y a des grenades lacrymogènes, il y a des choses qui brûlent, etc. C'est pas ça. Ça, c'est un aspect des choses, et c'est l'aspect des choses qui est à la limite dangereux. Dangereux en ce sens que les manifestations qu'on voit depuis le mois de janvier contre la réforme des retraites sont des manifestations tranquilles, où tout le monde vient, femmes, enfants, il y avait encore des petits-enfants dans une charrette avec leurs parents qui les poussaient dans la manifestation tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de risque, parce que la police n'ose pas attaquer des manifestations si massives où il y a des 100 000, 200 000 personnes. Par contre, effectivement, quand la police se trouve à une manifestation de 1000 ou 2000, là, c'est une autre police. Mais le fait que dans les écrans, sur vos écrans, et je mets, pensons aux familles qui ne sortent pas de chez elles ou dans un petit village ou des gens âgés et tout, qui vont voir ce qui s'est passé aux bassines, vont dire, mais c'est très, très dangereux de manifester. Et donc l'effet indirect, c'est que quand vous montrez ces manifestations-là, d'une part, vous donnez une fausse idée de la situation politique concrète telle qu'elle est, parce qu'elle est beaucoup plus large et la crise est beaucoup plus complète que ça. Et en même temps, petit à petit, vous induisez la peur chez des manifestations potentielles. Oh, mais on ne va pas y aller parce que moi, et je le dis, moi, je n'ai pas envie de perdre un œil. Hein, je n'ai pas envie de perdre un œil. Personne n'a envie de perdre un œil. Hein. Bon, donc, ça joue un effet. Alors, ça n'a pas marché aujourd'hui. Ça peut marcher un jour plus prochain. C'est-à-dire instiller la peur. C'est, alors, je reprends avec l'accent de Charles Pasqua. Il faut terroriser les terroristes, vous vous souvenez, hein. C'était ça, Pasqua. Et bien là, on est dans le post-Pasqua. Hein. Il faut terroriser les manifestants. Et donc, vous allez mettre en lumière, alors il y aura des débats, on dira c'était pas bien, c'était trop, etc. Vous allez mettre en lumière la violence de l'État bourgeois, et vous allez faire peur à un certain nombre de manifestations potentielles, parce que entre les 3 millions de manifestants et les 70% d'opposants à la réforme des retraites, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes. Ceux-là ne sortiront pas parce qu'ils ne veulent pas perdre un œil. Hein. Et donc c'est ça qui est en jeu et c'est ça qui est dangereux. C'est dangereux parce que c'est la manipulation de l'opinion publique. Et alors il ne s'agit plus de terroriser les terroristes, mais il faut terroriser la population. Alors une partie de la population n'a pas peur, s'organise, essaye de maintenir donc ces manifestations de masse paisibles pour que dire c'est un objectif social intéressant la totalité de la population française et on marche pour ça, mais le ver est dans le fruit, c'est-à-dire que plus cette violence, même si elle s'exerce sur des petits groupes, dans des manifestations plus spécialisées, comme ça a été le cas aux bassines, elle est en train d'instiller cette idée que ça va devenir dangereux de manifester. Et c'est là, c'est l'espoir du pouvoir, j'espère que cet espoir sera déçu, c'est-à-dire terroriser les manifestants. C'est ça. Alors, je voulais pas faire un tableau trop noir, mais il méritait, je pense, d'être fait avec toutes ses composantes. Alors que l'opinion internationale dise Macron, ça va plus du tout, la crise est totale, etc. Mais si l'opinion internationale, elle ne voit que des jets de lacrymogènes et des véhicules spéciaux de la gendarmerie qui rentrent dans des manifestants, elle n'a pas compris l'ampleur du drame. Parce que c'est un drame politique que nous vivons, puisqu'on est en train, la République 5e est en train de mourir sur pied. Il va falloir trouver d'autres modes de relations. Et c'est des modes de relations, ce n'est pas simplement des textes, c'est des rapports entre les classes sociales, je fais un dire là-dessus, la classe sociale qui a tous les moyens de production, qui s'enrichit énormément, il n'y a qu'à voir la montée des inégalités, et puis la majorité des autres, la classe de ceux qui travaillent et qui essayent de gagner leur vie proprement. Ils ne la gagnent pas toujours bien, les salaires sont petits, etc. Bon, c'est ça l'opposition, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est une opposition fondamentale, et c'est à partir d'oppositions de ce type-là que, si on y arrive, on reconstruit un espace constitutionnel. C'est-à-dire, l'espace constitutionnel, c'est une espèce de clarification des rapports de pouvoir et des rapports de classe dans la société. Autrement, ce n'est pas une constitution, c'est un bricolage, c'est le RIP à la Sarkozy, ça c'est du bricolage. Un vrai rapport, ça serait... Alors, c'est Condorcet, qui, je crois que vous connaissez peut-être le philosophe français Condorcet, qui donnait les conditions pour que la République fonctionne proprement. Il disait « Toute proposition doit être portée à la connaissance de tous les citoyens. » Alors on peut, effectivement, le texte de la loi sur les retraites l'a été. « Un débat raisonné doit avoir lieu entre ces propositions. » Là, effectivement, ça n'a pas eu lieu du tout, hein, 47-1, 44, etc. « Des représentants ne vont être élus au suffrage universel. » Ça, heureusement, on y est resté depuis Condorcet. Et enfin, pour que la souveraineté du peuple puisse exister entre deux élections, il faudrait instituer la possibilité d'un référendum d'initiative citoyenne, ce qui n'est pas tout la même, pas la même chose que le partager, et d'un référendum révocatoire à mi-mandat. C'est-à-dire qu'on aurait pu, en 2019, organiser un référendum révocatoire contre M. Emmanuel Macron. Et on pourrait, à mi-mandat, donc en 2015, organiser un référendum révocatoire contre M. Emmanuel Macron ou n'importe quel autre. Ce système de référendum révocatoire a été mis à l'épreuve, il a été utilisé au Venezuela, et le président Chavez s'y est lui-même soumis, et il a toujours gagné les référendums révocatoires, mais ça, c'est une idée qui n'a pas, effleuré le moindre de nos constitutionnalistes dans la République française. Voilà, rappelez-vous Condorcet, parce que ce monsieur avait vu clair, il y avait d'autres révolutionnaires qui se sont ralliés très très vite à Bonaparte, qui avaient vu beaucoup moins clair, et je ne citerai pas leur nom. Ouf, dit-il. Voilà. C'était la France, mais c'était la France et l'international et l'histoire de la France depuis un certain temps, depuis les débuts de la Ve République. Alors j'ai quand même parlé un peu du reste de l'actualité pour dire, alors, puisqu'on en est à rire de la démocratie, enfin, ou à pleurer sur la démocratie, rions et pleurons tout à la fois. Il se tient depuis hier, je crois, à Séoul, une conférence pour la défense de la démocratie. On dit, ah, mais que c'est bien. Et qui participe et qui l'a organisé? Alors là, c'est très, très drôle. Et qui l'a organisé? Ben, c'est les États-Unis qui l'ont organisé. Qui participe? Ben, pas grand monde, en vérité. Ils participent les États-Unis puisqu'ils sont les organisateurs. La Corée du Sud, parce que c'est chez elle et qu'elle est un peu liée aux États-Unis. Le Japon, là aussi, pour des raisons, le Japon a quand même pris deux bombes atomiques sur la figure. Il a des troupes américaines chez lui tout le temps. Bon, il ne peut pas. Et on y ajoute, alors, c'est presque risible, le Costa Rica et la Zambie. C'est tout, c'est tout. Vous avez en gros les représentants de 400 millions de personnes sur 8 milliards qui vont se permettre de dire « Nous, on est la quintessence et la fine fleur de la démocratie ». C'est triste à pleurer, c'est triste à pleurer. Hein. Le pauvre Costa Rica, qui est le seul pays d'Amérique centrale où, effectivement, il n'y a pas trop de misère parce que les États-Unis l'ont bien en main. La Zambie, c'est la même chose. Bon, ça ne représente rien. Et quant à la Corée, je souligne quand même que ce pays est tellement prisé de ses habitants que les Coréens ne font plus d'enfants. Ils ont tellement foi dans un avenir qu'ils ne voient pas, clairement, qui ne font plus d'enfants. C'est un des taux de renouvellement de la population les plus faibles au monde. Hein. C'est-à-dire sur la base d'un enfant par couple. C'est tout. Donc, à terme, la population de Corée du Sud disparaît dans 30 ans. Bon. Qu'est-ce qui empêcherait ça ? Ben effectivement, ça, mais ça je rêve devant vous, ce serait que les Coréens soient libres de décider tous ensemble de leur avenir, parce que la Corée, l'histoire coréenne, la culture coréenne, ça existe depuis un millénaire, même plus, et donc c'est une culture remarquable, mais qui a été totalement stérilisée par la coupure de la guerre organisée par les États-Unis sur son territoire. Ensuite, je voulais vous parler de deux choses. Évoquer la question de la crise politique en Israël, qui est très très importante, puisqu'elle met encore. Enfin, il s'agit, je ne rentre pas dans les détails, mais d'un projet sur le rôle de la Cour suprême israélienne dans la conduite des affaires, mais qui met en cause le comportement du Premier ministre Benjamin Netanyahou et surtout les pratiques et les options idéologiques et politiques de ses alliés dans la nouvelle coalition, qui sont les partis religieux les plus durs et les plus extrémistes qui existent sur le sol d'Israël. Au point que. Ça, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, parce que c'était trop cocasse. Un des représentants de ces partis extrémistes a été reçu en France la semaine dernière. Et il était tellement caricatural qu'un personnage qui sévit beaucoup sur les ondes de la radio française, sur France Culture, qui s'appelle Alain Finkielkraut, a été obligé, sur les ondes de Radio Culture, de France Culture, de dire « ce monsieur est un voyou, ce monsieur est un voyou ». Alors, M. Finkielkraut disant sur les ondes de la France Culture, radio d'État, le personnage membre du gouvernement de M. Netanyahou, qui est venu en visite officielle à Paris, il n'est pas venu entre deux avions pour voir la famille, il est venu en visite, est un voyou. On en est là de la situation en Israël. Donc, situation gravissime. Bon. Ben, on en parlera peut-être si le temps nous le permet. Deuxième chose, et vous allez voir que c'est très très intéressant aussi. Vous avez tous entendu parler de BioNTech, ou pas tous. Alors BioNTech, je rappelle, donc c'est une société allemande qui fabrique des produits pharmaceutiques, qui a mis au point le fameux vaccin ARN, donc ARN messager contre le Covid, qui l'ayant mis au point, parce qu'elle avait les moyens techniques et scientifiques de le faire, l'a proposé pour sa généralisation à la planète entière, au grand laboratoire américain Pfizer. Ce n'est pas Pfizer qui a inventé le vaccin, c'est BioNTech. Bon. Mais effectivement, BioNTech a été réaliste en disant ben, « Nous, on est une boîte allemande, on a des moyens financiers, mais si on n'a pas quelqu'un qui impose le produit sur le marché mondial, on ratera notre coup. » Ce qui fut fait. Donc Pfizer, vite fait, donc a considéré que le produit était bon, qu'on pouvait tenter le coup. Les organes officiels des États-Unis qui donnent l'autorisation de mettre un vaccin sur le marché ont dit que, vu l'urgence, et sans prendre les précautions qu'il faut habituellement prises avant de mettre un vaccin sur le marché, on dit, mais tant pis, vu l'urgence, il faut laisser passer. Bon. La suite est connue. Alors, je ne rentre pas parce que je ne me sens pas compétent pour le faire dans le débat entre ce vaccin et les autres. Il faut savoir quand même, je le rappelle, là, ce n'est pas une question qui concerne la biologie des vaccins, qui n'est pas mon domaine, mais il faut savoir qu'il y avait sur le marché mondial plusieurs types de vaccins disponibles et qu'il n'y a que celui-là qui a été autorisé par la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est Mme von der Leyen et son gang qui ont décidé que c'était Pfizer-BioNTech qui était le seul vaccin utilisable sur le territoire de l'Union européenne. Ils ont mis dans la poche du PDG de Pfizer et subsidiairement du PDG de BioNTech un marché de 400 millions de clients. Voilà, au voleur, j'allais dire. Et personne n'a dit « Ah, mais pourquoi ne pas essayer un des vaccins cubains, le vaccin chinois, le vaccin russe ?» Il y en avait d'autres qui ont été utilisés dans d'autres pays. Ça, on n'a pas eu le droit d'y toucher. Alors, je ne sais pas, je ne rentre pas dans le débat de biologie sur ces vaccins, les bons, les mauvais, mais toujours est-il que l'imposition de ce vaccin, puisque c'est le vaccin BioNTech, à la population de l'Union européenne, est un scandale politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision démocratique dans la décision de la Commission de dire « on ne prend que Pfizer ». Les résultats financiers sont extraordinaires. C'est-à-dire le chiffre d'affaires de Pfizer avec ce vaccin-là, c'est 100 milliards de dollars dans l'année. 100 milliards de dollars dans l'année. Et j'en suis venu à décider de reparler de cette question-là pour bien remettre les pendules à l'heure sur cette question des vaccins, parce que BioNTech... comme Pfizer d'ailleurs, dit, ben, ça y est, ça ne se vend plus. Ben oui, ça se vend, et heureusement, ça ne se vend plus. De toute façon, l'épidémie, on peut considérer que l'épidémie est finie. Ça s'est bien vendu encore en 21, un peu moins en 22, puis maintenant, c'est un peu fini. Bon, alors, et BioNTech vient de faire une conférence de presse en disant, ben, je vais revenir à mes amours anciennes. C'était quoi ces amours anciennes? Et là aussi, je ne suis pas juge, je ne suis pas spécialiste de biologie moléculaire, mais c'était d'utiliser les vaccins, enfin non pas les produits à ARN messager pour traiter certains types de cancers. Où là, effectivement, on a affaire à un dérèglement organique, à un dérèglement de l'ADN, etc. Et on peut imaginer, et d'ailleurs ils avaient déjà pas mal travaillé sur ces sujets-là avant de faire leur vaccin Covid. Donc, ils disent, ben voilà, le Covid, on a aussi, on s'est rempli les poches, alors tout va bien, mais maintenant, pff, il n'y a plus d'argent à faire avec le Covid. On repasse, on revient sur notre métier traditionnel. Et ils ajoutent, je le souligne, passé dans la conférence de presse, mais avant d'avoir quelque chose de sûr, il faudra une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ce qui est le délai normal. Il n'y a pas, à s'insurger. Il faut effectivement prendre des précautions, tester sur des animaux, puis tester sur des petits échantillons de population humaine, etc. Et prendre le temps. Pour le Covid, on n'a pas pris le temps, c'est tout. Alors après, je ne rentre pas dans ce débat qui est toujours en cours d'ailleurs sur les provax, les antivax, c'est pas ça. Il y a une implication des milieux d'affaires, de la corruption de la Commission européenne et de Mme von der Leyen elle-même. Alors il faut savoir les autres scandales qui ont eu lieu dans le personnel de la Commission européenne, mais c'est ça qu'il y a derrière. Et finalement, BioNTech reconnaît que il va revenir à son métier et prendre les précautions normales pour mettre sur le marché des produits nouveaux faisant appel à des techniques nouvelles qui ne sont pas à rejeter d'elles-mêmes, mais qui sont à utiliser avec précaution. On ne bricole pas la génétique humaine comme ça parce que tout d'un coup, Mme von der Leyen a décidé qu'on n'utilisait que Pfizer. Là, on est dans une situation folle. Bon. Un dernier mot sur l'Europe. Je finirai là-dessus. Tant pis pour la musique aujourd'hui. Un dernier mot sur l'Europe. Il faut savoir que pendant la période du Covid, et c'est encore en train de continuer un peu, même si ça commence à se transformer, le gouvernement de la France et les gouvernements d'ailleurs de l'Union européenne ont eu la bride sur le coup, c'est-à-dire que la Commission européenne a relâché ou a fermé les yeux sur toutes les contraintes qu'elle imposait d'habitude à tous les gouvernements, sur le maximum de déficit budgétaire, sur l'endettement, etc. Vous savez tout ça. Bon, pendant donc 2 ans, la Commission européenne a fermé les yeux. Mais elle est en train de les réouvrir. Elle est en train de les réouvrir en disant « Je vous rappelle qu'il y a des règles. Je vous rappelle qu'il y a des règles. Et donc ces règles, il va falloir les respecter. » Et respecter ces règles, ça veut dire faire des économies budgétaires. Parce que le budget de la France est en déficit. Mais surtout, pendant ces années folles du Covid, M. Macron a emprunté à des niveaux extraordinairement élevés puisque l'argent était quasiment gratuit. Puisque vous savez que les crédits des banques centrales étaient à 0%, voire en dessous. Et donc, il a beaucoup endetté, mais il a augmenté le déficit de la République française de 1 000 milliards d'euros. Et maintenant, la Banque centrale et la Commission européenne lui disent « Dites, vous êtes un peu endetté. » Alors, aujourd'hui, la France est un des pays les plus endettés de l'Union européenne. Avant, on montrait du doigt l'Italie, on montrait les mauvais joueurs. Ça y est, nous y sommes. Et à partir du moment où la Commission européenne et la Banque centrale se mettent à dire dans le tuyau de l'oreille à Macron « Maintenant, il faut faire des économies. » Qu'est-ce qu'ils trouvent comme réponse ? On va faire des économies. Dérisoire à l'échelle sur la retraite. Parce que voilà son choix. Il ne fait pas des économies sur le reste, il fait des économies sur la retraite. Alors, je ne l'ai pas inventé, c'est un propos qui a été tenu avec toute la froideur nécessaire et tout le cynisme nécessaire par un économiste de Sciences Po qui s'appelle M. Zemmour. Alors, je ne sais pas si c'est le fils de l'autre, je ne veux pas le savoir, mais voilà ce qu'il a dit. Mais il dit, puisque l'Union européenne a exigé que nous fassions des économies, Macron a choisi de faire des économies sur la retraite. Donc, c'est l'Union européenne, non pas l'Union, c'est la Commission européenne qui gouverne et Macron maintenant, on est en train de raser les murs parce que le patron, c'est pas lui. Le patron, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne, c'est un organe dictatorial qui n'a été élu par personne. C'est ça qu'il faut voir. La France, elle est là-dedans. Réfléchissons bien. Tout ce qui nous arrive, c'était un peu ma conclusion, tout ce qui nous arrive sur cette question de retraite, toutes ces tricheries avec la Constitution, tous ces bricolages et tout, est lié au fait que nous avons, enfin la France s'est obligée à suivre des recommandations de la Commission européenne sur l'âge de départ à la retraite. s'y ajoutent maintenant des pressions pour diminuer le déficit. Et sur quoi on fait, sur quoi on essaye de se rattraper ? Sur la, on prend dans la poche de la population. C'est ça la conclusion qu'il faut donner à cette séquence. Je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si, dernier mensonge, ça fera plaisir à Habib qui n'est pas là, mais qui, je pense, nous écoute. Le Conseil de sécurité a invité, de façon informelle, c'est très gentil, hein, donc c'est un monsieur qu'on a fait venir, qui est journaliste des États-Unis, qui s'appelle monsieur Aaron Maté, et qui a dit en fait que toutes les accusations portées contre le gouvernement de la République arabe syrienne sur les attaques chimiques contre la population syrienne par le gouvernement ne tenaient pas debout. Et donc je voulais le signaler parce que les chefs de l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques avaient étouffé les rapports de leurs propres enquêteurs pour dire qu'effectivement c'était le gouvernement de la République arabe syrienne qui avait gazé son propre peuple. C'est faux, et je ne sais pas pourquoi tout d'un coup le Conseil de sécurité ouvre ses portes à un monsieur qui dit tout ça c'était des mensonges. C'est-à-dire que le mensonge est général, en France, ailleurs, dans le camp occidental, on ne sait plus que mentir, et c'est ça probablement qui va accélérer la fin de ce camp occidental. Voilà, c'est une conclusion qui se suffit à elle-même. Merci Roselyne. On va peut-être finir justement par notre petite musique que j'avais prévue, ou si on a le temps ou pas le temps, je ne sais pas. Oui ? Bon, ben allons-y alors. Alors, j'explique, c'est Paul Éluard, donc l'Ode à la liberté, c'est un poème qui a une histoire très particulière, mais c'est un poème qui est écrit comme un poète, qui écrit ça parce qu'il a ça sur le cœur, et c'est plutôt un poème d'amour, parce qu'il vise une personne dont il est amoureux, c'est une ode à l'amour. Et en fait, ce poème se transforme en un hymne politique parce qu'il est utilisé donc pendant la résistance, pendant la guerre et pendant l'occupation de la France. Il est tiré à des milliers d'exemplaires, à des dizaines de milliers d'exemplaires, parachuté par les avions de la Royal Air Force sur le territoire de la France. Et dans tous les maquis, on a le poème d'Éluard qui tombe du ciel et on le lit et ça va devenir un des hymnes de la résistance. Voilà. C'était ça la petite histoire que je voulais vous raconter. Merci Roselyne, ça a été très bien et on recommencera.
Imaginez, des avions qui bombardent un poème. C'est exactement ce qu'il s'est passé en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce poème, c'est Liberté de Paul Éluard.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Cet hymne de la résistance était à l'origine un poème d'amour.
Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais.
1942. Des groupes de résistants recopient et diffusent Liberté de Paul Éluard. De main en main, le poème passe de la zone occupée à la zone libre, puis à l'Angleterre. Quelques mois plus tard, le gouvernement libre du général de Gaulle lui donne une nouvelle portée. Imprimé sur des milliers de tracts, le poème est lancé depuis des avions anglais sur la France occupée, notamment dans les maquis d'où agissent les résistants.
On n'a pas le tirage du nombre de tracts qui ont été diffusés. La quantité est difficile à apprécier. Ce qui est certain, c'est que la plupart des résistants ne pouvaient pas ne pas le connaître à la fin de la guerre. C'est ça qui est assez phénoménal.
Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, puis au début de la Seconde, Paul Éluard, horrifié par la boucherie de 14-18, est un fervent pacifiste. Pourtant, quand il écrit ce poème pendant l'été 1941, dans Paris occupé, ce n'est pas la paix qui l'anime, c'est cette femme. Ses vers sont destinés à Anouche, sa compagne, artiste et muse du dadaïsme. Le nom, à la fin du poème, devait être le sien.
Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait.
Au moment même de la rédaction, quelque chose s'est déplacé. Le poème ne s'appelle pas d'abord « Liberté », il s'appelle « Une seule pensée ». Et il est bien un poème fondé sur l'idée d'une sorte d'obsession ou de conviction intime très forte Ce que prouve sa structure anaphorique, la répétition n'est pas seulement là pour nous tympaniser et embêter les élèves, elle est là d'abord parce qu'elle dit quelque chose de l'ordre de l'obsession, la seule valeur qui compte. Et cette valeur pour Éluard, ce n'est pas étonnant, c'est l'amour. Comme si, d'une certaine façon, il y avait une sorte d'équivalence entre l'amour et la liberté.
Ces mots intimes sont transformés par Paul Éluard en une valeur commune. C'est ce passage du personnel au collectif qui donne sa force à liberté. Ces mots d'amour